Maintenant, tournons-nous vers le musée McCord. Comme je le disais en entrée de jeu ce matin, il y a plusieurs activités qui ne sont pas accessibles à cause de la pandémie. On pense au théâtre, au cinéma, les restaurants. Mais les musées, eux, continuent à fonctionner et c'est tant mieux. C'est peut-être une formidable occasion, malgré les circonstances, de découvrir certains de ces musées-là. Dans mon cas personnel, le musée McCord m'est inconnu. Je connais les grands musées, j'y suis allé, mais le musée McCord, qui a pourtant eu 100 ans au mois d'octobre dernier, et il y a même une activité qui est en cours relativement à ces 100 années-là. Je pense que je devrais aller faire un tour et je vais m'assurer de bien connaître ce musée d'abord en parlant avec Madame Pascale Grignon, qui est directrice principale marketing, culture et inclusion. Bonjour, Madame Grignon.
Bonjour.
Dites-moi, parlez-moi du musée McCord qui a eu 100 ans.
Oui, ben effectivement, hein, ça arrive pas tous les jours qu'on a 100 ans, donc c'est vrai pour les gens comme pour les institutions.
Bien
Alors
sûr, hein?
effectivement, le 13 octobre, donc on célébrait les 100 ans du musée McCord, qui est un musée qui a vu le jour en 1921 et qui a été créé en fait à l'origine par l'Université McGill qui a hérité finalement de la collection personnelle de David Ruff McCord, donc d'où le nom du musée, qui était un avocat de formation, qui était marié mais n'avait pas d'enfant et a vraiment dévolu là, tout sa passion sur le collectionnement. Et pour lui, en fait, ce qu'il souhaitait faire, c'est garder trace des ce qu'il considérait comme étant les trois nations fondatrices du Canada, donc les anglophones, les francophones et les Premières Nations, ce qui n'était pas exactement à la mode à l'époque là, de considérer les premiers peuples comme étant fondateurs finalement de la nation. Alors ça, tout ça a permis de développer une collection personnelle qui était quand même de 15 000 objets.
Oui.
Mais cette collection-là a pris évidemment du galon. Le musée est devenu un musée, une institution privée là depuis ses débuts. Et on parle maintenant d'une collection là qui comporte au-delà de 2,3 millions d'objets, de photos, d'une panoplie d'objets qui vont effectivement des objets de la culture, des cultures autochtones, qui est vraiment très réputé au musée, mais aussi des objets de la photographie, des collections de costumes, mode et textiles aussi. Nous avons la plus importante collection de costumes canadiens au monde. Et bon, j'en passe là, des caricatures. On a la chance d'avoir d'être dépositaire des fonds de caricatures, des grands caricaturistes là, montréalais. Je pense à Isline, je pense à Chapleau et plusieurs autres qui font don au musée de leur travail finalement annuel. Justement, chaque année. Donc, bref, toutes sortes de moyens, d'objets, de façons de raconter l'histoire de Montréal, puisqu'on est le musée d'histoire sociale de Montréal. Alors, on passe vraiment par les objets du quotidien, les images du quotidien avec la photographie pour raconter comment Montréal évolue, comment les Montréalais évoluent, comment les enjeux sociaux à Montréal et dans le monde, mais donc qui touchent Montréal aussi, les Montréalais, évoluent également à travers le temps. Donc, un musée très très dynamique, très très orienté, dans l'air du temps, très orienté sur les questions qui nous passionnent finalement à tous les jours.
Oui, puis c'est un. J'ai lu un peu sur votre histoire. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille pendant 100 ans. Il y a eu beaucoup de changements, d'associations avec d'autres musées, etc.
Oui, effectivement. Puis je dirais que depuis, on parlait de fermeture de certains lieux culturels, entre autres. On a vécu des fermetures comme tout le monde là au cours de la dernière année. Le musée a été fermé pendant presque 30 ans, dans les années 1900. Donc, effectivement, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Le musée aussi s'est fusionné en 2013 avec le musée Stuart qui était sur l'île Sainte-Hélène, que
oui.
Malheureusement on a dû fermer là. Avec les suites de la pandémie, la pression qu'il y avait, puis des enjeux financiers importants. On a fusionné également avec le musée de la mode, qui était, lui, au marché Bon Secours, évidemment, il y avait une connexion assez claire là entre la collection du musée de la mode et du musée McCord. Je parlais tout à l'heure de la collection mode et textile qui est vraiment exceptionnelle au musée McCord. Donc, ça nous a permis de continuer à préserver les collections de ces deux musées-là qui avaient des situations financières encore une fois très difficiles. Les collections sont intégrées dans celles du musée McCord et on est en mesure donc de les mettre en valeur là, et de les diffuser au public également.
D'accord. Maintenant, moi, je veux aller voir votre musée. C'est sûr que la partie de l'exposition Chapleau, profession caricaturiste, a tout de suite accroché mon œil. Il faut savoir que ça se termine bientôt. Ça se termine le 9 janvier.
Exact, ça se termine dimanche, alors dépêchez-vous.
Oui, c'est ça.
Si ce soir-là vous intéresse, oui, absolument.
Ben, j'ose espérer que ça va être une première de plusieurs visites, mais dans les circonstances, pour aller vous visiter, qu'est-ce qu'on doit faire?
Alors, c'est tout simple, vous vous rendez sur notre site web, vous êtes en mesure de réserver une plage horaire. Donc, on a des horaires aux 15 minutes, donc il y a des plages horaires aux 15 minutes qui sont proposées. Mm-hmm. Et ça a prouvé comme étant un système vraiment efficace, je vous dirais. On a eu, particulièrement dans le temps des fêtes, mais aussi dans les dernières semaines, un achalandage important. Le fait que le flot de visiteurs s'étale bien là, tout au long de la journée et arrive par petits groupes, si on veut, là, donc un petit nombre de visiteurs à la fois, ben ça évite les regroupements, les rassemblements, les files d'attente, tout ce que vous pouvez imaginer un peu partout. Et ça amène vraiment la capacité à tout le monde de maintenir la distanciation, ce qui est souhaité. Évidemment, vous apportez votre masque, votre couvre-visage
bien
qui
sûr.
Est exigé. Le passeport vaccinal n'est pas exigé dans les musées, pas plus que dans les commerces présentement, justement parce que tout le monde est masqué plutôt.
Oui.
Et on est en mesure de maintenir facilement la distanciation. Évidemment, bon, il y a le lavage de mains qui est obligatoire là, à l'entrée du musée, à l'entrée des différentes expositions. Dès qu'il y a une manipulation, on va avoir aussi du matériel pour nettoyer là, le matériel qui est utilisé entre les différents utilisateurs. Alors vraiment, c'est un environnement très, très sécuritaire. D'ailleurs, lors du deuxième confinement, là, à l'automne, il y avait eu plusieurs études qui avaient été faites, si vous vous souvenez, là,
oui.
sur les différentes activités qu'on peut faire dans la vie, là,
oui, oui, oui,
actions et lieux à visiter. Et les musées étaient vraiment là dans les lieux les plus sécuritaires, même avant les épiceries et tout ça, parce qu'effectivement, on touche pas aux pommes et aux légumes, n'est-ce pas? Mais plutôt, on observe avec les yeux. Et donc, conséquemment, c'est des lieux très, très sécuritaires. On a dû toutefois mettre de côté, bon, tout ce qui est atelier, visite guidée, encore une fois, pour éviter là, de créer un quelque rassemblement que ce soit, puis une certaine présence pendant une durée rapprochée, là, une durée okay. plus prolongée, je devrais dire. Donc, ça, on a mis ça de côté là, depuis les dernières annonces dans le temps des fêtes. Mais sans doute que ce sera de retour là, dès que la situation va s'améliorer.
Okay.
Mais pour l'instant, ça se passe vraiment très, très bien. On procède à des sondages, là, évidemment, sur une base régulière. Les visiteurs se disent très, très satisfaits de la visite, de la se sentent en sécurité, ils apprécient les mesures qui sont en place. Et je dirais même que ça améliore l'expérience de visite si on compare avec la période pré-pandémique, hein, où des fois, il y avait beaucoup d'affluence
oui,
au même
c'est
moment.
Vrai. Oui.
Ben, le fait de fonctionner par plage horaire, justement, puis d'avoir cette distanciation-là, ben, c'est agréable, même dans peu importe la situation, là, COVID ou non. Dans le fond, ça devient vraiment une activité agréable. Et vous le disiez d'entrée de jeu, hein, malheureusement, énormément de lieux sont fermés présentement, alors ça devient une bouffée de fraîcheur, une bouffée de bien-être là, que de visiter un musée, de laisser la COVID à la porte un petit peu pendant,
oui, oui, oui.
du moins dans nos pensées, le temps justement de découvrir ces contenus-là, découvrir des artistes incroyables comme Chapleau, faire la visite au musée qui se passe encore une fois très, très, très bien.
Je suis allé au Musée des Beaux-Arts de Québec dernièrement et on pouvait avoir un audio guide, mais sur notre téléphone cellulaire. Est-ce que c'est la même chose de votre côté?
Oui, ben, c'est-à-dire que de notre côté, on n'a pas comme tel de visite guidée là, sur le micro-site. Par contre, on a effectivement un micro-site qui permet de consulter des contenus complémentaires. Donc, on aurait eu, par exemple, peut-être des iPads à certains endroits qui auraient mm-hmm. permis là, de consulter des contenus complémentaires, ben ça, c'est disponible sur le micro-site. Alors, ça fonctionne très, très bien, effectivement.
Fantastique. Avant qu'on se laisse, je voulais juste passer à travers vos différentes expositions. Bon, Chapleau, je m'imagine pas mal qu'est-ce que ça peut avoir l'air et effectivement, ça m'intéresse personnellement. Il y a l'exposition Parachute, mode subversive des années 80 et... En voyant le titre, là, je pensais à quelque chose, puis c'était pas ça du tout, là. C'est une forme de mode des années 80, vraiment, là.
Absolument, oui. Parachute est une marque, en fait, qui a vu le jour à Montréal, sur la rue Crescent, pour être bien
Oui.
précise. Donc, il y a deux designers, en fait, un architecte et une designer de mode qui se sont rencontrés au château et qui ont démarré leur propre marque qu'ils ont appelée Parachute, qui était subversive, justement. Elle émanait vraiment de la culture New Wave de l'époque. Qui était une plaque tournante vraiment très forte à Montréal, au même titre que le disco, là, éventuellement, précédemment. Donc, cette mode-là, qui est une mode androgyne, qui est une mode très streetwear, donc assez précurseur, là, elle a fait boule de neige. Les boutiques se sont ouvertes aux États-Unis, dans Soho, du côté de Los Angeles. Les vêtements étaient vendus, ils faisaient un tabac jusqu'au Japon. C'est une marque qui a vraiment marqué l'imaginaire des années 80, qui était portée par des Madonna, Duran Duran, qui habillaient Miami Vice. Donc, ça vous donne vraiment, on est dans la culture des années 80, là, pure et dure. C'est une exposition qui est fantastique de par sa scénarisation aussi, où on est plongé dans le design de l'époque, en plus de découvrir des vêtements qui sont magnifiques et qu'on voudrait tous porter aujourd'hui. Donc, c'est vraiment à découvrir, une marque finalement dont on peut être fier et qui a fait rayonner Montréal là, d'une façon assez exceptionnelle.
Et ça se passait à Montréal.
Oui, absolument, absolument.
Et en terminant, il nous reste à peu près une minute quinze, je voudrais que vous nous parliez justement du 100 jours qui se termine bientôt, là, pour marquer les 100 ans du musée.
Oui, voilà, donc ça se termine le 19 janvier, pardon.
Non, 19
Alors,
juin,
on
c'est
parle
mon
de...
anniversaire.
Ouais, bon, ben, bonne fête à l'avance. Mais donc, 19 janvier, donc quelques semaines encore pour en profiter. Effectivement, on a voulu s'assurer que le musée soit accessible au maximum de personnes. Et c'est un cadeau qu'on voulait offrir aux Montréalais pour nos 100 ans. Donc, 100 jours gratuits là, qui ont commencé le 13 octobre, à notre date anniversaire. Le musée, c'est vraiment un musée inclusif, un musée qui raconte une histoire qui est plurielle, qui est à l'image finalement de ce qu'ont vécu pour vrai les Montréalais, peu importe de quelle communauté ils sont issus. Et donc, voilà, c'est une façon là, d'être très concret au niveau de l'accessibilité. Ça est rendu possible grâce à notre partenaire qui est BMO Groupe Financier. Et c'est une belle occasion d'aller voir l'exposition Voix autochtones d'aujourd'hui, une nouvelle exposition permanente qu'on a lancée en septembre, justement dans le cadre de la programmation du 100 ans. Une exposition extraordinaire qui vraiment laisse toute la place aux communautés, aux nations autochtones du Québec qui ont réaliser des témoignages et décider comment ils souhaitaient qu'on raconte leur histoire et qu'ils racontent eux-mêmes. En fait, le musée est vraiment là pour leur laisser toute la place et rendre cette parole-là disponible. C'est vraiment une exposition à voir qui est très, très touchante et, je dirais, nécessaire.
Qui va tout à fait en ligne avec la mission de départ de votre musée. Eh bien,
définitivement.
Madame Grignon, ça a été un parcours fantastique. Merci beaucoup. Je vais y aller.
Ça m'a fait grand plaisir.
Et on
se reparle bien.
On se reparle dès que possible.
Excellent. Bonne journée à vous.
Au revoir.